1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Grand Tout. Vous écoutez Canal B, on est ensemble pendant une heure, 17h-18h, émission en direct, ce qui vous permettra de tout savoir ou presque. Non, vous saurez tout lors de la conférence un peu plus tard du côté du 360. Vous saurez tout sur Billy Wilder grâce à de Vienne à et Berlin jusqu'à Hollywood. Une ciné-conférence, on pourra dire, qui sera présentée par Marc Cerisuello, professeur d'études cinématographiques et aussi critique, et qui a publié il n'y a pas si longtemps que ça Billy Wilder, pas intégral, mais vraiment, on en sait beaucoup grâce à ce livre-là. C'est Capricci, il n'y a pas très longtemps, un Européen à Hollywood. Ils sont plusieurs à avoir dû quitter l'Europe au milieu des années 1920 ou 30, et puis aller faire la carrière que vous connaissez peut-être pour Billy Wilder. On en parle dans un instant, et c'est surtout Sohrab de l'émission Déjà Vu qui sera à la manœuvre pour parler avec Marc Cerisuello. Avant de les retrouver tous les deux, je vous propose un dernier extrait cette semaine de notre album Disque d'or de la semaine. C'est l'américain Turner Cody qui propose un album country folk absolument irrésistible, je trouve, pour ce membre de la petite galaxie, micro-galaxie anti-folk new-yorkaise du début des années 2000. Lui, il a préféré aller se mettre au vert du côté de Saint-Louis, Missouri, pour nous faire entendre des chansons que peut-être vous auriez pu croiser du côté de chez des musiciens des années 1940-1950. Oui. Est-ce qu'il y a un peu de Johnny Cash là-dedans? Il y en a, oui. Et puis la trompette, parfois. Pas sur le morceau qu'on écoute pour débuter l'émission aujourd'hui, que je vous souhaite bien bonne d'ailleurs. Vous écoutez donc Le Grand Tout. Bonne émission.
Billy wore those Beatle boots when they were in high style, and everyone was sporting like a dandy. But no one from the old crowd's been around here in a while, and it's getting hard to recognize a friend. Don't see those same ladies in the costumes that they wore, and you don't see those same faces on the sidewalk anymore. No one's blowing smoke rings or laughing like before, and it's getting hard to recognize a friend. It's getting hard to recognize a friend.
Turner Cody, à l'instant, on l'entendra à nouveau sur les places musicales de Canal B. Soyez rassurés, on va donc parler beaucoup Billy Wilder aujourd'hui. Vous allez en parler, Marc Cerisuelo et puis Sorab, à propos notamment de ce Un Européen à Hollywood, qui est sorti qui a été paru il y a quoi, pas très longtemps, hein, c'était en novembre chez Capricci, de ce réalisateur génial, on peut dire que c'est un réalisateur génial. Vous avez vu peut-être certains de ses films ou tous ses films, je ne sais pas. Deux d'entre eux sont montrés ici à Traveling, sur cette thématique Los Angeles, Boulevard du Crépuscule et puis Assurance sur la mort. On va pouvoir plonger donc dans cette carrière assez unique sans doute, qui a commencé dans les années 20 du côté de Vienne et puis il est passé par Berlin, par Paris. Et forcément, Los Angeles allait l'accueillir peut-être facilement dès le début, Marc Cerisuelo. Il a été accueilli comme un dieu pratiquement dès le début, ou ça n'a pas été si facile ?
Pas du tout, non, ça n'a pas été, aussi aisé pour plein de raisons. D'une part, Lou Beach était arrivé au début des années 20, Murnau en 26, les grands cinéastes donc, qui étaient arrivés à Hollywood avaient, eux, été accueillis comme des princes. Mais au milieu des années 30, on était encore, en fait, dans les conséquences de la Grande Dépression. Et il a fallu aider tous ces exilés, donc arrivés en masse à cause, là, cette fois-ci, de Hitler. Et c'était relativement difficile. Il y avait une forme de protectionnisme, y compris syndical, dans les milieux du cinéma. Et c'était encore plus difficile pour Wilder, parce que si les autres étaient musiciens, metteurs en scène, techniciens, lui était scénariste et il avait un petit handicap, c'est qu'il ne parlait pas anglais. Et donc, et en l'espace de 2 ou 3 ans, avec un écrivain américain, Charles Brackett, ils sont devenus la paire de scénaristes la plus connue à Hollywood. Mais quand il est arrivé vraiment en 1934-35, c'était beaucoup plus compliqué.
Alors, vous avez vu forcément ces films qui se baladent entre le drame, le film noir, la comédie, la satire et même le documentaire. Il en a fait un. Il a été un des premiers à filmer la découverte pour les Américains des camps de concentration en Allemagne, en Pologne aussi. Une partie de sa famille est morte dans les camps. Et c'est ce qu'il fera dire à lui que les optimistes restaient mourir à Auschwitz et les pessimistes avaient des villas à Beverly Hills.
Absolument, c'est vraiment une phrase cruelle, mais qui dit bien effectivement ce qu'il a vécu. Alors, il n'a pas filmé les camps, il a été, d'une certaine manière, c'est encore plus extraordinaire, si l'on peut dire, il a été le premier homme à voir les films des camps, parce qu'il était... Pour l'armée américaine, il devait entreprendre les auditions de dénazification des acteurs du personnel de théâtre et de cinéma qui avait travaillé donc pour Hitler pendant une douzaine d'années. Mais quand il arrive à Londres, à l'état-major des forces alliées en juin, la guerre n'est pas terminée, donc il est bloqué à Londres, et c'est là qu'il découvre des pellicules qui avaient été envoyées par les Russes, les résistants, et qui se retrouvaient, l'armée américaine bien sûr, et qui se retrouvaient là. Il a commencé à regarder, et ce sont ces images dont certaines d'ailleurs ont été réutilisées très souvent par Alain René et par d'autres. Et cela a donné un documentaire, en effet. Il voulait en faire un long métrage, mais finalement, il a aussi été certainement le premier à comprendre que les gens ne voulaient pas entendre parler de ces questions-là à la Libération. C'était quand même un peu compliqué. Et il en a fait un film de 20 minutes, Les Moulins de la Mort. Et ensuite, il a travaillé sur des comédies. Pas sur les camps, bien sûr, mais sur l'Allemagne de l'après-guerre, La Scandaleuse de Berlin, notamment, qui est sortie en 1948, est un film admirable à cet égard, et où l'on voit d'ailleurs Berlin complètement détruit, en champ de ruines. Ce sont des images assez impressionnantes.
Soham. Oui, justement, on peut peut-être revenir un petit peu en arrière et parler de sa période allemande, puisque c'est un des multiples intérêts de votre livre, c'est justement de développer un petit peu sur cette période allemande. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, sans que je déflore trop le sujet, peut-être ?
Oui, il est vrai que pour nous, Français, Billy Wilder, c'est l'auteur de très grands succès de l'histoire du cinéma, les comédies avec Marilyn Monroe, Sa tendre réflexion, Un certain l'homme chaud, celle avec Audrey Hepburn, Sabrina, Ariane, sont vraiment ces films-là que l'on connaît, et d'autres, La Garçonnière, etc. Il y a aussi des drames, les films qui sont projetés à Rennes cette année, donc Assurance sur la mort et Sunset Boulevard, entre autres. C'est effectivement quelqu'un qui a travaillé depuis assez longtemps, en fait, dans le cinéma. Et il a d'abord été journaliste à Vienne, puis à Berlin. Et ces textes sont vraiment intéressants. C'est un journaliste qui a 20 ans, hein, et qui fait des articles, des reportages, et parfois des reportages très intéressants, autobiographiques. Enfin, il a par exemple été danseur mondain, c'est-à-dire gigolo, danseur à la demande. Et il fait un très beau texte, un gamin de 21 ans qui raconte... Il fait vraiment un reportage qu'il a vécu, sur des choses qu'il a vraiment vécues. C'est vraiment à lire et à faire découvrir. Et puis, donc, surtout, il est passé du journalisme au scénario. Il a été ghostwriter pendant assez longtemps. Puis, il a à son actif en une douzaine de crédits, mais il a travaillé sur bien davantage de films. Donc, il y en a certains qui sont restés célèbres, en particulier un film qui est adapté de la littérature enfantine, Émile et les détectives, de Erich Kästner, qui est un auteur très célèbre, en fait, hein, dans le monde. Et ça, c'est un excellent film. Il en existe une édition DVD en sous-titré en français que je recommande vraiment à nos auditeurs. Et puis, donc, il était avec une bande d'amis. Ils ont travaillé sur des comédies, sur des films musicaux, sur des films criminels, et il travaillait pour le plus grand studio européen, à Berlin, la UFA, qui était le 80 à 90% du cinéma allemand, un géant vraiment que le cinéma français n'avait pas retrouvé encore de telles couleurs, hein, au début des années 30, et à la fin des années 20 surtout. Et ils en avaient un petit peu assez de tourner ce qu'ils disaient des bluettes. Et donc ils ont fait ce film, cet autre film très célèbre en 1929-30, qui s'appelle Les Hommes le dimanche, qui est un documentaire très intéressant sur la vie quotidienne de très jeunes Allemands, des garçons et des filles. C'est un peu comme dans les films de Godard ou de Lelouch, ils gardent leur prénom, ce qu'ils ont dans la vie, et ils vont se baigner au bord des lacs. On a rarement vu Berlin aussi bien filmé, sans que ce soit des films avec des artistiques ou expressionnistes. C'est vraiment un réalisme remarquable, et on voit, un peu comme dans La Nouvelle Vague, des jeunes gens qui se courent après. C'est très beau. C'est un film qui existe aussi, qu'on peut également voir en DVD en France.
Absolument. Et donc ensuite une courte transition par la France, si je me trompe pas dans la chronologie.
Absolument. Oui. Alors il est pardon.
Non, je vous en prie.
Il est très vif. Billy Wilder, il comprend tout de suite, il faisait du ski avec sa bonne amie à Davos en Suisse quand Hitler a été, non pas élu, mais nommé chancelier. Et donc janvier 33, il décide de partir immédiatement. Il règle, en quelques semaines, c'est réglé, et il se retrouve à Paris. Il se retrouve à Paris où il doit travailler. C'est là qu'en fait, lui, le scénariste, il parlait français. Il n'avait pas appris l'anglais, mais il parlait français. Et donc, il a pu co-réaliser un film sur un gang de voleurs de voitures avec une jeune femme interprétée par Daniel Darieux, qui devait avoir 17 ans à l'époque. Et donc, c'est une curiosité française. C'est pas excellent, mais bon, voilà. C'est son premier film, et c'est réalisé par lui, enfin, co-réalisé en l'occurrence. Et ensuite, évidemment, ce sera le départ pour les États-Unis.
Vous le disiez, Marc Cerezuelo, il parlait français, Billy Wilder. On va l'entendre parler en français parce qu'on va plonger directement dans la dualité, hein, de ce réalisateur scénariste plutôt d'abord quand même. Il se revendiquait sur tout ça. On verra même que jusqu'à la toute fin, il se revendiquera un scénariste, écrivain.
Le secret, c'est de faire un film sans dire aux gens que ça sera une comédie ou ça sera une tragédie. Je fais le film, après le film est fini, je commence à parler sur le sujet. Vous savez, ça c'était une comédie. Je voulais du commencement faire une comédie ou une satire ou quelque chose Non, jamais, jamais avant. On fait un film, on raconte une histoire. Si ça devient drôle, on a fait une comédie. Mais je trouve que je fais des comédies dans mes années où je me trouve déprimé. Quand je suis très heureux, je fais des tragédies. Quand je suis très déprimé, je fais des comédies.
Alors, il a pu s'exercer à l'écriture de scénarios dans sa période européenne. Et là, il est armé quand il arrive à Los Angeles, sans doute. Mais pour autant, c'est pas tout de suite qu'il va pouvoir accéder à des studios, à des producteurs qui n'étaient pas ses meilleurs amis, il semblerait.
Ça dépend. Non. Là, il a quand même été bien aidé. Il avait de très bons amis. En particulier, celui qui était le principal agent, qui s'appelait Paul Connor. Connor, en fait, au bout d'un moment, on enlève le umlaut. Et Paul Connor, vraiment, garçon remarquable, le magicien de Sunset Boulevard, c'est comme ça qu'on l'appelait, lui a permis de travailler. Il y avait également des... Il a permis de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il ne parlait pas la langue, ça veut dire qu'il a trouvé des clients qui ont acheté les histoires allemandes et qui les ont fait traduire pour en faire des films américains. Ça, c'est comme ça qu'il a survécu, en fait, en arrivant. Il a été aidé par Lubitsch et par d'autres, parce qu'il y avait le Fonds européen du cinéma, qui était dirigé par Connor, Lubitsch et quelques autres. Et donc, il a bénéficié de cet élan assez important. Il faut quand même rappeler qu'il y avait 40 000 exilés germaniques au sens large, c'est-à-dire des gens qui s'étaient retrouvés à Berlin, mais qui étaient parfois d'origine polonaise, tchécoslovaque, hongroise. Enfin, donc, mais c'était quand même ce qu'on appelait l'autre Allemagne. C'est quasiment une petite ville. Hein, et c'est des gens qui travaillaient à différents niveaux. Ils n'étaient pas tous des stars ou des grands metteurs en scène, mais il y avait une véritable communauté germanique à Los Angeles à cette époque-là. Et le chef-lieu, c'était la villa de Thomas Mann sur Pacific Palisades, ce quartier qui a été ravagé par les incendies l'année dernière.
Absolument. Justement, vous parlez dans votre livre, c'est très intéressant, des premiers scénarios qu'il a écrits, notamment pour Michel Dyson, pour Lubitsch, qui est un peu son maître à penser, on peut dire, quelque part. Et vous précisez quelque chose de très intéressant, vous précisez que c'est avec Charles Brackett, mais probablement que c'est la touche Wilder, pardon, qui a un petit peu comme une, c'est pas les mots que vous employez, je suis peut-être un peu brutal, mais comme une intrusion de la politique, finalement, dans le cocon un peu hollywoodien à travers... des petites touches, bien sûr. Hein. Il ne va pas faire des films politiques à proprement parler, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Ouais, c'est un sujet passionnant. Il faudra m'enlever le micro à un moment donné. Mais effectivement, Wilder, en particulier Wilder, était très engagé. Ça a été c'était un homme de gauche, pas d'extrême gauche, mais c'était quelqu'un qui a toujours voté démocrate à partir du moment où il a été naturalisé et qui était même plutôt ancré à gauche, on peut dire. Et ce qui est amusant, c'est que vous avez mentionné le nom de son co-scénariste, Charles Brackett, qui lui était un écrivain new-yorkais, qui avait travaillé pour le New Yorker, qui avait publié des romans, qui était plus âgé, et qui était républicain. Et donc, ce qui est très amusant, c'est que ce tandem, on l'a appelé ça, Life leur a consacré un long papier en 1940 en les appelant le couple le plus heureux de Hollywood, ce qui était assez coquin puisque Brackett était bi, hein, donc ce qui n'était pas du tout le cas de Wilder, qui lui était quand même un ancien Berlinois très gay-friendly, et donc c'est pas pour rien que Wilder a réalisé certains Lem Show avec ces fameuses histoires de musiciens déguisés en femmes et d'orchestres féminins. Il y a cette tendance, c'est d'ailleurs le remake d'un film européen. Hein, donc ce qui est au cœur effectivement du propos politique en effet de Wilder, c'est de faire avancer autant qu'il le pouvait l'implication américaine. C'était pas à lui tout seul avec ses petites mains qu'il allait y arriver, mais ça a été très important parce que on savait que la population américaine était anti-Hitler, hein, donc il y avait quand même une... Mais que Roosevelt devait faire attention, on était quand même dans une... C'est intéressant par rapport à aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'était la tradition isolationniste américaine, business as usual, on faisait quand même toujours du commerce avec l'Allemagne nazie, mais progressivement, l'opinion, les écrivains, les journalistes, les hommes de radio ont beaucoup effectivement contribué à cela. Et à Hollywood, c'était effectivement difficile, et donc dans Ninotchka, ce film très célèbre avec, de 1939, avec Greta Garbo dans le rôle d'une soviétique, c'est un film délicieux, anticommuniste, mais on dit souvent l'anticommunisme primaire, là je dirais que c'est un anticommunisme secondaire. Les soviétiques ont réellement la part belle dans ce film, mais c'est dans ce film, sauf erreur de ma part, qu'on entend le premier Heil Hitler dans l'histoire du cinéma hollywoodien, parce que comme c'est l'histoire de trois Russes qui ont fait un peu les idiots, ils attendent un envoyé spécial du Kremlin, donc ils balisent un peu, et ils pensent que c'est un homme, et donc ils voient un homme barbu qui ressemblerait à un camarade, et quand il s'approche de lui, il tend le bras et on entend Heil Hitler. C'est intéressant parce qu'il travaille à la fois contre le communisme stalinien, mais également, bien sûr, contre l'autre versant du totalitarisme, beaucoup plus prenant pour les juifs qui l'ont fui, c'est-à-dire l'hitlérisme.
Alors, évidemment, dans sa longue carrière, parce qu'il y a quand même plus de 50 ans à écrire ou réaliser des films, il sautera vraiment, hein, je le répète, d'un genre à l'autre. Il y a un genre tout de même qu'il n'a jamais abordé, c'est le western, alors que pourtant... S'il s'appelle Billy, c'est un peu à cause du Wild Wild West. Un peu ironique tout ça, sans doute, mais il s'est toujours bien entouré quand même. Charles Brackett, vous le citiez, co-scénariste avec lui, notamment sur Sunset Boulevard. C'est Chandler qui va...
Chandler travaille sur Assurance sur la mort.
Assurance sur la mort, pardon.
Oui.
Il a pris le meilleur, quoi, en fait, pour parler
Il a pris le meilleur. Chandler est un immense écrivain, mais n'avait pas d'expérience de scénariste en 1943, quand ils écrivent le film qui sortira en 1944, et Chandler a été maltraité par Wilder, qui avait un côté très sévère et qui lui a appris à écrire un scénario, mais il en garde un souvenir épouvantable dans ses mémoires, Raymond Chandler, l'auteur, le créateur de Philip Marlowe, le détective.
Vous le verrez justement, Assurance sur la mort, Double Indemnity, pendant le festival Travelling, aussi bien que Sunset Boulevard. Vous allez pouvoir entendre maintenant peut-être un extrait justement de cette bande-annonce du film extrêmement important dans l'histoire du cinéma et qui est un métafilm. Je crois que c'est un terme que vous utilisez parfois, Marc Cyrus Vello. On écoute justement ces noms qui vont être cités. Vous allez en reconnaître certains, peut-être. C'est la version, en originale que vous allez entendre maintenant. Mais je pense que si vous prêtez l'oreille, même si vous n'êtes pas d'excellent angliciste, vous devriez tout de même comprendre quelques mots. Et quelques mots.
This is a Hollywood story about the people who make the movie. The little ones that you never hear of, like Betty and me. The great ones, like Cecil B. DeMille. All those who knew Norma Desmond, a strange woman who left her mark on all of us, who crossed her path.
Alors, c'est un film qui raconte Hollywood, qui raconte la fin d'une autre époque aussi, puisque Norma Desmond, qu'on entendait citer là, son personnage, c'est Gloria Swanson qui l'interprète. Elle est recluse dans sa maison. Elle est un petit peu le fantôme d'une grande star de l'époque du muet, évidemment. Autour d'elle, un majordome joué par l'un des héros aussi de Billy Wilder. Et puis aussi des histoires de petites personnes comme ça qui sont pas des grandes stars ou qui ne l'ont jamais été, qui ne le seront peut-être pas. Un film étonnant à plus d'un titre. Je ne dévoilerai pas exactement ce qui s'y passe parce que si on ne l'a pas vu encore, c'est assez frappant. Eric von Stroheim présent donc dans ce film là. Comment on peut parler de l'influence qu'il a pu avoir sur Billy Wilder?
Alors, là, pour vous répondre très directement, il a eu une influence énorme sur Billy Wilder. Wilder a toujours dit qu'il avait eu deux maîtres, Lubitsch pour la comédie et Stroheim pour le réalisme. Et l'extrait en français que vous avez passé tout à l'heure est formidable à cet égard, parce que ce qui compte pour Wilder, en effet, plus que les genres, puisqu'il a illustré effectivement le drame et la comédie au plus haut point, mais les deux, et effectivement, ces histoires sont d'abord pour lui des histoires réalistes. Alors parfois, évidemment, dans certains mêmes choses, ça frôle l'irréalisme, mais malgré tout, au départ, il y a des gens qui doivent manger, et leur seule solution, c'est de se déguiser en femme. Hein, donc c'est, même là, on a, même que certainement le film le plus fantaisiste, on trouve cela. Dans le réalisme, son maître, c'est Stroheim. Stroheim, auquel il consacre, quand il est un jeune journaliste à Vienne, un portrait. Donc parce qu'il y avait eu un scandale de certaines projections de films de Stroheim à l'époque. C'était que quelqu'un qui faisait scandale par rapport à la morale catholique. Parce que c'était... Alors, Stroheim, c'est un personnage incroyable. Hein, il se fait appeler von Stroheim. Mais en fait, il n'est absolument pas un aristocrate. Dès que Wilder le rencontre, il reconnaît l'accent de tel bezirk, de tel quartier, d'arrondissement de Vienne. C'est très drôle, ils sont donc très complices. Et lorsque Wilder le fait tourner dans Sunset Boulevard, il l'a déjà fait travailler dans son deuxième film. En 1943, il réalise un film de guerre, parce que c'est le moment où justement le film anti-nazi, on le vend en poupe depuis Pearl Harbor, depuis l'entrée en guerre des Américains à la fin de l'année 1941. Et là, les juifs de Hollywood sont vraiment sollicités, s'en donnent à cœur joie. Et dans ce film, Les Cinq Secrets du désert, Stroheim joue le rôle de Rommel, le Feldmarschall Rommel, le grand militaire nazi, et qui se fait avoir par Les Cinq Secrets du désert. Je n'en dirai pas plus.
On va peut-être parler au-delà de cette date-là, 1950, pour le film Sunset Boulevard, pour aller vers des comédies sans doute, et puis aussi parler de la fidélité qu'il a pu avoir avec ses comédiens et ses comédiennes. Jack Lemmon, il l'a fait jouer 7 fois quand même, et puis Shirley MacLaine, Marilyn Monroe, Walter Matthau, tous viennent plusieurs fois, William Holden aussi. C'est une famille, en fait, l'histoire de Billy Wilder avec les acteurs autour de lui.
Ah oui, et il adorait travailler avec les acteurs. Il adorait le tournage. Quand on lui disait, mais pourquoi vous qui étiez un si célèbre scénariste, pourquoi est-ce que vous avez pris le risque de passer à la réalisation, comme on dit, c'est quand même autre chose. Mais il disait, parce que le vrai plaisir est là. Et écrire un script et le laisser réaliser par quelqu'un d'autre, c'est comme un homme qui préparerait le lit pour une superbe jeune femme, et c'est un autre qui couche avec elle. C'est une des anecdotes fameuses de Billy Wilder. Là encore, par ses blagues, parfois de mauvais goût d'ailleurs, il dit quand même une certaine vérité. Et c'est ce qui fait qu'il a, pour rester sur le scénario avant de parler des acteurs, c'est pour ça qu'il a une telle... pour lui, c'est un auteur complet, comme Mankiewicz, comme Sturges, Preston Sturges. C'est-à-dire que ce sont des auteurs qui écrivent et réalisent les scripts qu'ils ont écrits. Alors que l'autre tendance, celle qui a pris, grâce au cahier du cinéma, à la politique des auteurs, version cahier du cinéma des années 1950, c'est plutôt l'idée que l'auteur du film, c'est le pur metteur en scène, celui qui ne signe pas effectivement le scénario. Ce sont les deux grandes tendances qui sont intéressantes à étudier, qui pour moi en fait ne s'opposent pas vraiment, mais que l'on a eu tendance un peu par souci de la polémique entre les cahiers du cinéma et positif par exemple, on a eu tendance en France à un peu dramatiser ces deux positions, l'auteur complet par rapport au pur metteur en scène, et lui est plutôt ce que Godard personnalité Caillé louée chez un Mankiewicz, par exemple, en l'appelant un athlète complet. Et les acteurs, c'est vraiment une troupe, en effet. Celui qui domine, vous l'avez dit, la filmographie, à 7 reprises, c'est Jack Lemmon. Ça commence avec Certains l'aiment chaud et ça s'arrête avec Buddy Buddy, le film de trop, comme dirait Quentin Tarantino, c'est-à-dire le remake de L'Emmerdeur, pour le film qui parle aux spectateurs français, le film avec Jacques Brel et Lino Ventura, et qui est le film où il a perdu son timing, où c'est vraiment pas très bon, mais pendant, donc de 1959 à 1982, avec de grands chefs-d'œuvre comme La Garçonnière, après la performance éblouissante de Certains l'aiment chaud, et puis encore d'autres films. Moi, je recommande notamment le film italien Avanti de 1972, qui est une beauté incroyable, parce que c'est l'humanisation d'un grand patron héritier américain qui s'humanise en découvrant l'amour en Italie.
Nous n'écouterons pas I Want to Be Loved by You. Non, désolé pour les grands fans de cette chanson chantée par Marilyn dans Some Like It Hot, Certain Lame Show. Non, un autre morceau très court, et je repasse la parole à Sohrab, toujours pour évoquer avec Marc Cerisuello la vie de ce scénariste, réalisateur Billy Wilder, dont vous parlerez, Marc, tout à l'heure, dans cette ciné-conférence de Vienne et Berlin à Hollywood, tout ça dans le cadre du festival Travelling dédié, consacré à la ville de Los Angeles. On écoute ceci et à tout de suite.
Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay, reckless too, carefree mind all the time, never blue, always going, don't know where, always showing, I don't care, don't love nobody, it's not worthwhile, all alone. Running Wild.
Running Wild, une course effrénée de New York à Miami dans ce film. Vous l'avez vu forcément, Certains l'aiment chaud, Some Like It Hot, Billy Wilder avec Tony Curtis, Jack Lemmon et donc Marilyn Monroe. Sohrab, c'est à toi.
Oui, je vais vous poser une question, c'est quelque chose qui affleure un peu dans votre livre, c'est qu'il y a aussi un petit peu une espèce de revision, parce que finalement vous n'êtes pas le premier à avoir écrit, même en français, un livre sur Billy Wilder, mais souvent on a l'image d'un cinéaste un peu cynique, enfin même très cynique, un peu misanthrope, volontiers, pas loin d'être un goujat même, alors il n'a pas été dans sa vie, il me semble, mais voilà, dans sa manière de
réagir.
Voilà. Est-ce que c'est une image qui correspond, enfin, pour vous, à la réalité, ou en tout cas, quelle perception dans ces films? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un cynique complet, une espèce de...
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a relativement mal vieilli, parce qu'il a trouvé que le cinéma évoluait d'une façon qui ne lui convenait pas. Et là, on a, hélas, des déclarations qui sont contre... C'est le vieil homme ne veut pas mourir. Donc c'est la génération qu'il appelle des barbus.
Ah oui.
À Hollywood, hein, donc dans la génération Lucas, Spielberg, Coppola, etc. Donc là, les barbus, ça ne lui plaît pas.
Après, c'est vrai qu'il portait la barbe.
Et il n'aimait pas non plus la nouvelle vague. Alors que Godard, dont on a parlé tout à l'heure, avait écrit des lignes élogieuses dans le dictionnaire du cinéma américain des cahiers sur Billy Wilder en 63-64, autant Wilder trouvait que l'improvisation Godard, notamment de la nouvelle vague et des films comme Godard, pour lui, c'était pas le cinéma, pour les raisons que vous aviez évoquées, c'est-à-dire que pour lui, Et il n'a pas forcément raison non plus sur ce point. Le film, il y a trois choses qui sont importantes. L'histoire.
Un scénariste.
Donc, il est évident que, donc, il faut le savoir, ça ne veut pas dire que Wilder a toujours raison et qu'il n'y a pas d'autre façon de faire du cinéma. Hein, faut pas être, voilà. Mais en ce qui concerne, en revanche, son attitude avec les gens, c'était quelqu'un de formidable. Il avait... Donc il y a eu des mots très cruels contre Marilyn parce qu'il était exaspéré par le retard. Lui, c'était quelqu'un qui tournait, qui faisait... Dès le départ, il faisait un minimum de prises pour avoir la paix avec les studios. À l'époque, le final cut n'était pas acquis. Donc si on fait 20 prises, on est sûr que le studio prendra la plus mauvaise. Si on en fait 3 ou 4... C'est ce que faisait Wilder. Donc, il tournait très peu, il gâchait très peu de pellicules. Et donc, ça l'a conduit à avoir une efficacité, une rapidité. C'est un petit nerveux, c'est un journaliste. Hein, c'est le petit reporter. Hein, donc, il y a cela en lui. Alors, qui peut brusquer les gens, effectivement. Ça, je le comprends. Mais humainement, c'était quelqu'un d'absolument formidable. Et alors, donc, sur Marilyn, il a pu dire des choses vraiment méchantes, mais d'un autre côté... Il se rattrapait, il disait, bon, elle était absolument exaspérante, il a fallu lui faire dire 40 fois où est le bourbon, la bouteille de bourbon, dans des anecdotes très célèbres dans certains lames chauds, elle n'y arrivait pas, c'était des moments où elle avait des difficultés, mais il disait, mais une fois que tout cela est passé, finalement, ce qu'on voit à l'écran est absolument merveilleux. Donc, c'est quand même un des plus beaux hommages qu'on peut rendre au travail de Marilyn. L'autre hommage, vous l'avez rendu avec c'est une chanteuse exceptionnelle également. Et une femme très intelligente aussi, on ne dit pas assez.
Oui, oui, et très cultivée. Oui. Mais le fond dans ces films, justement, donc on parle souvent aussi donc d'un cynique. On sent dans votre livre que vous y, que on va pas non plus retourner ça comme une crêpe et dire que c'est un sentimental, mais on sent quand même que au-delà du type qui vient déniaiser l'Amérique un petit peu candide, il y a quand même un cœur qui bat, quoi.
Absolument, et on pouvait dire la même chose de Stroheim. C'est-à-dire que ce sont des Viennois, que d'ailleurs c'est le cas de Otto Preminger à l'américaine, c'est le cas d'une certaine manière de Fritz Lang. On a effectivement une tendance qui vient des écrivains, notamment de la Vienne 1900. On peut penser à Schnitzler, on peut penser à des gens d'une autre génération comme Robert Musil, on peut penser à des philosophes comme Wittgenstein. C'est cette atmosphère réaliste viennoise qui est quand on lit les nouvelles de Schnitzler, on voit qui ne sont pas tendres, elles non plus, et on voit effectivement le terreau sur lequel a poussé, a grandi Wilder. Et en effet, au sein du sentimentalisme américain de rigueur dans les studios, effectivement, cela pouvait détonner. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça ne le rend pas sentimental pour autant, ou affreusement cynique de l'autre. Il est effectivement, il reste lui-même. Et j'ai déjà employé le terme, mais c'est un réaliste. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser raconter d'histoires sur les grands sentiments humains. Et ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et la place étonnante qu'il a eue à ce moment-là, effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas contribué à le rendre plus tendre, surtout avec les Allemands. Il n'a pas pardonné. C'est comme Vladimir Jankélévitch en philosophie qui a pardonné, mais nous ont-ils demandé pardon ? Donc il est resté sur cette ligne-là. Ce sont des gens de la même génération qui sont nés au début du siècle et qui ont vécu. Donc il y avait une quarantaine d'années au moment de la guerre et qui n'ont absolument jamais pardonné. Et ça se voit notamment dans les deux films du retour en Allemagne, La Scandaleuse de Berlin dont j'ai parlé tout à l'heure en 1948, mais plus encore dans 1, 2, 3 en 1961, où là encore l'histoire s'invite de manière absolument incroyable, puisqu'au moment où il réalise le film, les Russes construisent le mur de Berlin. Ben, les Allemands de l'Est et les Russes construisent le mur de Berlin. Ce qui est quand même très, très étonnant. Le film commence en tournant sur la porte de Brandebourg et il est obligé de reconstruire immédiatement la porte de Brandebourg dans les studios bavarois pour pouvoir continuer son film. C'est... Non, il avait de quoi leur en vouloir, d'une certaine manière.
Vous le comprenez, dans cette conférence qui aura lieu à 18h30 au 360, ici, le 4 bis, nouvelle formule, il reste encore peut-être quelques places, donc allez faire un tour sur le site du festival. Pour...
Oui, je précise que c'est une conférence gratuite, oui, mais sur réservation.
Sur réservation, c'est gratuit, mais c'est sur réservation. Vous saurez tout, peut-être pas parce que Marc Cerisuelo est intarissable sur Billy Wilder, mais vous saurez aussi des choses sur ses influences esthétiques, ses héritages qui continue à exister aujourd'hui, et puis la circulation artistique. On dit que sans le Sunset Boulevard de Billy Wilder, il n'y aurait pas eu de Mulholland Drive de David Lynch. Quoi c'est vrai, ça ?
D'abord, avant même d'entrer dans le détail de l'inspiration des deux cinéastes, ce sont des faits géographiques. Ce sont des noms de rues très longues qui partent dans la montagne, qui redescendent. Il y a deux rues d'écart, en fait, entre Sunset Boulevard et Mulholland Drive. Donc il y a déjà un hommage, quand bien même on ne saurait pas, et il faut le savoir, que Billy Wilder est le cinéaste fétiche de David Lynch. Il a repris à plusieurs reprises l'inspiration wilderienne. Lost Highway de 1997, si je ne m'abuse, est un remake Assurance sur la mort. Alors c'est un remake lynchien, donc le personnage change d'identité au milieu du film. Mais c'est tout à fait une fois que l'on sait cela, et Guy Fawkes, le scénariste, qui est un très bon connaisseur du film noir, il a d'ailleurs publié un livre qui a été traduit au Cahier du cinéma sur le film noir, un des livres les plus accessibles sur le film noir, le dit très clairement. Donc le scénariste le dit très clairement. Quant à Mulholland Drive, c'est... Alors, ce qu'il faut quand même dire, sans dévoiler le pot aux roses de Sunset Boulevard, parce qu'on le sait dès la deuxième minute du film, c'est que c'est le mort qui raconte l'histoire. Et Mulholland Drive, qui est peut-être plus difficile à décrire, c'est aussi quand même un rêve de rachat d'une agonisante qui... comme le scénariste américain, n'a pas réussi dans le monde du cinéma. Le thème de l'échec et le thème de la prostitution, qui sont liés dans les deux films, se retrouvent à la fois chez Lynch et chez Wilder et chez Lynch. Et puis, il y a ce personnage très intéressant dans la série Twin Peaks.
Gordon Cole.
Oui, Gordon Cole, qui est ce détective complètement... cet agent du FBI complètement sourd, donc ça donne interprété par David Lynch lui-même, ça donne des moments très très drôles dans la série. Il s'appelle Gordon Cole. Et Gordon Cole, c'est un personnage que l'on voit peut-être... 3 secondes à l'écran dans Sunset Boulevard, je n'en dirai pas plus, mais dont on parle très souvent. Est-ce que Gordon Cole a appelé? Que fait-il? Etc. Donc ça, ne serait-ce que cela, c'est vraiment la signature, non seulement de l'hommage à Billy Wilder, mais il prend lui-même, David Lynch, ce nom pour interpréter un rôle assez amusant dans la série Twin Peaks.
Je crois qu'on arrive à la fin de cette discussion, sauf si Sorab, tu veux poser
une dernière question. Un petit élargissement qui vous concerne plus de vous davantage, Marc Cerisuelo, que le festival lui-même, c'est que va être réédité très bientôt. Enfin, va être disponible en magasin bientôt votre livre sur Preston Sturges aussi. Voilà, je voulais simplement
préciser
que c'est un livre. Enfin, je vais peut-être vous poser une question. Enfin, qu'est-ce qui vous avait poussé, parce que maintenant il commence à dater, il est sorti il y a à peu près 25 ans, parce qu'on retrouve encore une fois là, ici, vraiment le premier, si je ne m'abuse, le premier scénariste, réalisateur hollywoodien.
Absolument.
Mais qu'est-ce qui vous pousse, vous enfin, est-ce que ça dit quelque chose de votre vision du cinéma, de vous intéresser précisément à ça? Est-ce que c'est votre, peut-être, un désir de conjuguer justement deux visions cinéphiles, l'une peut-être plus positive avec le scénario, l'autre peut-être plus cahier avec la mise en scène? Enfin,
oui,
tout ça est très grossier, mais...
Oui, on peut dire les choses comme ça, mais surtout quand j'avais écrit ce livre, il y a effectivement un petit moment maintenant, je voulais rendre hommage, c'est un livre bref, beaucoup plus bref que le Billy Wilder, qui a un peu une somme, tandis que là, c'était un essai plutôt vif, sans notes, plutôt écrit. Et je voulais faire monter l'image de cet homme méconnu, qui s'appelle Preston Sturges. Même au sein des cinéphiles, souvent, les gens connaissent John Sturges, auteur de westerns et de films...
Qui est pourtant moins intéressant.
qui est un cinéaste non négligeable. Mais Preston, c'est le grand satiriste américain. C'est quelqu'un qui a eu une vie absolument incroyable. Sa mère était la bonne amie de la danseuse Isadora Duncan. La caravane de Duncan traversait l'Europe. C'est le seul réalisateur hollywoodien qui, enfant, est avec la famille Bayreuth, photographié avec la famille Wagner à Bayreuth. Enfin, voilà. Donc il a vécu en France.
Donc encore une fois, une passerelle avec l'Europe.
Il a vécu en France à plusieurs reprises, donc c'était aussi un témoignage, cette fois-ci, franco-américain. Et puis, il a été celui qui a permis aux scénaristes de devenir réalisateurs. Dans le passé, il y a pu y avoir, parfois, c'est arrivé à Ben Hecht, qui était très fameux, très grand scénariste, qui a pu faire des films, mais ça s'est arrêté très vite.
Des essais.
Lui est vraiment passé à la réalisation en 1940, et il a ouvert la porte à John Huston, à Delmer Daves, à Billy Wilder, dès 1942. Donc il a eu en plus une importance historique. Mais surtout, les films de Sturges, c'est à mourir de rire.
Oui.
C'est une troupe. Alors là, il y a ce que les Américains appellent une stock company, c'est-à-dire les fidèles des fidèles. Ils sont 8 ou 10.
Et parfois tous à l'écran d'ailleurs, 8 ou 10, ils sont
Parfois on les voit ensemble. Il y a vraiment un film très étonnant qui s'appelle The Palm Beach Story, où la troupe interprète, si l'on peut dire, un club de milliardaires imbibés, les amateurs de la caille et de la bière, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, et qui commence à mener une battue dans un train. Enfin, c'est du délire. Et en même temps, c'est un grand satiriste. Il parle donc de milieu. Il critique le milieu de la publicité dans Le Gros Lot, le milieu du cinéma dans un métafilm. C'est peut-être son film le plus célèbre, Les Voyages de Sullivan, et une comédie du remariage qui s'appelle The Lady Eve en anglais, Un cœur pris au piège en français, avec Henry Fonda et Barbara Stanwyck, qui est une des grandes merveilles de la comédie américaine.
Les Voyages de Sullivan, qui ont fait l'objet d'une référence très précise des frères Cohen, sur lesquels vous avez également écrit un livre.
Absolument.
Tout est dans tout.
On va terminer avec un extrait du début du film Kiss Me Stupid, Embrasse-moi Idiot, avec Dean Martin qui joue son propre rôle. Déjà, ça, c'est une avancée incroyable dans le cinéma, sans doute. On reparlera peut-être du cinéma de Billy Wilder avec Marc Sirisuelo, mais vous le retrouvez en tout cas tout à l'heure pour cette conférence de Vienne et Berlin à Hollywood, dans le cadre du Festival Travelling. Et puis bien sûr, il y a ce livre Billy Wilder, un Européen à Hollywood, chez Capricci. Et puis bientôt, John Sturges réédité.
Preston.
Ah mon Dieu. Tu l'aimes pas trop celui-là? Oui, bon d'accord. Bon, Marc disait qu'il était quand même pas si inintéressant.
Ah non,
que ça.
Non,
mais là c'est Preston.
Preston, John Sturges, enfin bon, on en parlera en antenne.
Bon, en tout cas, on termine.
Chez Marest, éditeur.
Oui, chez Marest.
On termine, nous autres, avec cet extrait court, mais intense, évidemment, Dean Martin sur la scène du Sands à Las Vegas, tourné pendant qu'il était vraiment en train de jouer là-bas. Hein. À bientôt. Merci.
Wonderful, it's marvelous, you should care for me. South of night, it's paradise, it's what I love to see. You made my life so glamorous. Can't blame me for feeling amorous. Ooh, now, is this a bit of terrific?
Last night she was banging on my door for 45 minutes. But I won't let her out.
It's wonderful, it's marvelous that you should care for me.
Dans cette session info concert du Grand Tout, on va aller à l'ouest, tiens, pas jusqu'à Los Angeles, sans doute pas, mais du côté, par exemple, eh bien, d'un concert de Melody's Echo Chamber qui se déroulera très prochainement. Alors oui, on ne reste pas à Rennes hein, aujourd'hui, non, on ira à Lorient. Vous pourriez même choisir de l'avoir à Saint-Brieuc aussi, puisque la chanteuse musicienne qui viendra présenter son tout dernier album, sorti il y a quelques semaines, eh bien, jouera à deux reprises dans la région à Bonjour Minuit le 25 février, c'est à Saint-Brieuc, et puis à l'Hydrophone face A le 26 février. On l'écoute immédiatement avec un morceau qui, même s'il n'est pas californien, nous fait voyager, nous fait entrevoir le soleil qui reviendra. Oui, il reviendra forcément un jour ou l'autre. Chamber, Mélodie Prochet, donc à retrouver à deux reprises dans la région, alors à trois reprises en vérité, puisqu'elle jouera le 24 février à Stereolux à Nantes, le 25 à Saint-Brieuc à Bonjour Minuit, et puis le 26 à Lorient, à l'Hydrophone, et malheureusement pas d'arrêt rennais. C'est pour ça que je vous le signale, ce concert où vous retrouverez la musicienne apaisée, semble-t-il. C'est ça le sens du nom de son album Unclouded. Il n'y a plus de nuages dans le ciel. Et celui vient, ce nom d'album-là, eh bien, d'une phrase de Hayao Miyazaki à propos de la recherche d'équilibre. Cette phrase, je vous la donne parce que c'est une bonne maxime et peut-être il faut s'en inspirer. Tu dois voir avec des yeux sans nuages de haine, voir le bien dans ce qui est mal et le mal dans ce qui est bien, ne prête allégeance à aucun des deux côtés. Oui, bah oui, bon, je vous laisse réfléchir là-dessus, vous passerez le week-end à le faire peut-être. Nous, on va se quitter maintenant avec quoi ? Eh bien, avec là aussi l'occasion d'aller retrouver une musicienne hors de Rennes. Elle jouera à deux reprises en Bretagne le 4 avril, samedi 4 avril à Bonjour Minuit, à nouveau à Saint-Brieuc, et puis le dimanche 5 avril à l'Econova de Vannes. C'est l'anglaise Holly Cook qui viendra présenter peut-être, je ne sais pas si c'est ça qui est prévu, mais les versions dub de ses chansons passées. C'est ça l'objet de son nouvel album qui sort dans quelques semaines maintenant. Et c'est avec ça qu'on va terminer cette semaine de l'émission Le Grand Tout avec ce titre Rockaway Dub par Holly Cook. Toutes les infos autour notamment de son passage à Saint-Brieuc à Bonjour Minuit sur bonjour-minuit.fr. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de l'émission Le Grand Tout. On la commencera d'ailleurs encore au festival Travelling Los Angeles avec les ponts tendus entre le fameux jeu GTA V de chez Rockstar et puis le film Drive. Oui, on parlera de ça, de jeux vidéo et de cinéma lundi. On écoute donc Holly Cook. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.